Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Pendant presque trois semaines, entre mai et juin 2010, des écrivains français ont eu l'honneur d'être invités sur le Transsibérien dans le cadre de l'année France-Russie. Ils ont parcouru ce trajet mythique de 9288 km à 60 km/h dans un wagon baptisé alors attention Blaise Cendrars. Un peu moins d'un an plus tard, les livres de certains d'entre eux paraissent. Maïlys de Kerendal a écrit Tangente vers l'Est, Daniel Salnave a écrit Sibir, Moscou-Vladivostok, mai-juin 2010, chez Gallimard, et Dominique Fernandez, avec Transsibérien, paru chez Grasset, nous offre un récit de voyage, avec cet art de raconter qui lui est cher, où s'entremêlent érudition, histoire et réflexion d'aujourd'hui, et photographie de Ferrante Ferranti. Et à la lecture en tout cas de ces ouvrages, on comprend vite que l'un comme l'autre, avec Daniel Salnave, vous vous êtes empressé de dépasser les barrières de l'artificialité de ce genre d'opération de communication et que on voit combien vous avez aimé plonger en pays tatar, bouriat, à la manière de deux Européens, peut-être à la recherche d'un temps perdu, celui de l'Europe, qu'on croit ou qu'on dit en panne. En tout cas, Dominique Fernandez, vous avez privilégié au cours de ce voyage la rencontre, hors les rails réglementaires, le dialogue littéraire au-delà des âges et du temps, pour faire surgir justement une part d'Europe encore prisonnière de nos a priori. Alors la Russie, que vous connaissez si bien et que vous nous avez déjà fait découvrir à travers plusieurs livres, Place Rouge, Le dictionnaire amoureux de la Russie avec Tolstoï, La magie blanche de Saint-Pétersbourg, un livre aussi sur Eisenstein, et puis l'âme russe. Et cette fois, la Russie est présentée dans une méditation qui interroge à la fois le passé, le présent et l'avenir et fait surgir une Russie tout entière à travers les fenêtres du Transsibérien. Pourquoi avez-vous accepté, Dominique Fernandez, de faire ce voyage ?
Je connais bien la Russie d'Europe. J'étais à Nizhny-Novgorod, c'est tout, qui est encore la Russie d'Europe. Mais je n'ai jamais allé au-delà, ni à Kazan, ni au-delà de l'Oural. Et quand on m'a proposé ça, moi, c'était mon rêve toujours. Mais je ne le ferai jamais parce qu'il faut organiser quand même, c'est compliqué. Et plus on s'éloigne de Moscou, plus on est perdu. Alors là, c'était merveilleux. C'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, ça.
Pourquoi ?
Parce que, un, il y a la nature. C'est une beauté inouïe. On peut pas, c'est indescriptible même. Vous faites 1000 km dans la taïga, la forêt, sans rencontrer rien d'humain. Vraiment, la différence d'ici, il n'y a pas une maison, pas un homme, pas une route, pas un vélo, pas une voiture. Le lac Baïkal, c'est pareil, vous avez un lac au milieu des montagnes, il n'y a pas de choses balnéaires, il n'y a pas de pédalo, il n'y a pas de canot, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. C'est vraiment la pure nature, mais immense et très très belle. Et la seconde chose, si vous voulez, c'est la culture, parce que ce que je ne savais pas avant de partir, c'est qu'il y a des villes énormes là-bas. Nous sommes tellement ignorants en France que nous ne savons même pas le nom de villes qui ont 1-2 millions d'habitants. Novosibirsk, qui est une capitale qui a presque 3 millions d'habitants, Krasnoyarsk, sont des villes extraordinaires, avec une vie intense. Et puis, il y a toute l'histoire, la littérature, la musique, la peinture. C'est très, très riche comme région. Et voilà.
Vous terminez votre chapitre sur le lac Baïkal, un chapitre que vous intitulez « Le silence du lac Baïkal », en écrivant « Que d'anecdotes et de souvenirs prouvent bien l'impossibilité de rien dire sur le Baïkal qui ne soit ou prosaïque des contes, ou romantique enflure, ou rappel historique. » Dans votre chapitre intitulé « À travers la forêt », Dominique Fernandez, vous écrivez à propos de la beauté des paysages de Sibérie. En Europe, la vue est bornée, l'extase morcelée par, premièrement, le changement continuel du paysage, à des champs cultivés succède une forêt, à une plaine, un relief accidenté, chaque vallée est entourée de collines ou de montagnes, etc. En sorte que l'œil, sautant d'une impression à l'autre, n'a jamais le temps d'épuiser la jouissance du même et qu'on ne goûte que de petits plaisirs successifs. Deuxièmement, la présence humaine, une maison, un homme ou une femme, une voiture se trouve toujours dans le champ visuel, si bien que la curiosité va à ces vies innombrables, fugitivement entrevues, au lieu de s'abolir, dans une incuriosité libératrice. Ici, on n'attend rien, on ne cherche rien de nouveau, avec cette conséquence que tout est à chaque instant nouveau, par l'approfondissement qu'on fait du même. La beauté pure ne lasse jamais. L'Odyssée, à un degré moins intense, Guerre et paix, seraient les équivalents littéraires du voyage à travers la taïga, sans atteindre à cet affranchissement du pittoresque qui donne son plus grand prix à la forêt sibérienne. Ici, pas de détails qui retiennent plus qu'un autre. On ne détaille pas la taïga, on se laisse prendre, envoûté, annihilé par la succession indéfiniment répétée de l'identique. Quel était pour vous, Dominique Fernandez, le but de ce nouveau livre sur la Russie au regard de vos ouvrages précédents sur ce pays ?
Le but de ce livre, parce que nous n'avions aucun cahier de charge, hein, tu es invité par les Russes, ils ne demandaient rien. Mais j'ai tellement accumulé de notes, mais si, il faut faire un livre, et surtout, tous mes livres sur la Russie, c'est en partie pour combattre l'image négative que les médias nous donnent ici de la Russie. On ne parle de la Russie que pour la mafia, la corruption, la Tchétchénie, etc. C'est scandaleux, je veux dire. On ne parle jamais de ce qu'il y a de merveilleux en Russie, par exemple le rapport avec la culture, l'amour des gens pour la littérature, pour la poésie, pour la musique, pour l'opéra. Ici, c'est la consommation, la vulgarité, le week-end, la bagnole, tout ça. Ça, ça n'existe pas là-bas.
Y compris sur les gens de conditions modestes. La culture en Russie n'appartient pas aux élites, d'après vous. Elle est davantage partagée.
Ils sont passionnés de choses, moi qui me passionne. Donc, c'est un des motifs de ce livre pour moi, oui.
D'où vient cet a priori négatif, à votre avis ? Est-ce que c'est un héritage de la littérature ?
Non, ça c'est les médias. Vous savez, je connais D'accord. Naples, que j'adore. Ouais. On ne parle que pour les ordures. Moi, je suis allé, il n'y avait pas d'ordures. C'est pas plus sale que Paris. Non, il y a des villes maudites. La Roumanie, c'est pareil. Naples, enfin, tous les pays que j'aime. On parle, et les médias, en général, ne parlent que de ce qui est scandaleux, évidemment. Le bonheur, ça ne les intéresse pas. La richesse intellectuelle d'un pays, ils s'en fichent complètement. Écoutez, c'est comme si on parlait de la France uniquement pour les viols dans les cités, ou les voitures qu'on brûle à Noël. Chaque pays a ses plaies, la Russie a les siennes, il ne s'agit pas de nier, mais qu'on parle de ce qui est positif. Et c'est un pays immense. Moi, quand je vais là-bas, ça me requinque. Ma confiance dans l'humanité renaît, parce qu'ici, on est abreuvé de vulgarité, d'américanisation, de facilité. Là-bas, vous avez des gens qui aiment les choses, enfin que moi, que j'aime en tout cas.
Dans ce voyage, dans le cadre de cette année France-Russie, c'était l'occasion aussi de rencontrer à la fois soit des intellectuels, soit des étudiants au cours du passage.
Ça,
c'était organisé par le voyage. Est-ce que vous avez été déçu par ces rencontres ?
Oui, non, ces rencontres, il n'y avait aucun intérêt. Je les ai séchées très vite, parce que, vous comprenez, on arrivait à 9h du matin dans une ville, à 10h, on allait dans une médiathèque, et les gens qui ne nous connaissaient pas, que nous ne connaissions pas, nous demandaient « Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre ville ?» Je disais « Non, c'est pas la première fois. » « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, je dis, on ne pense rien, on vient d'arriver, c'est absurde. Non, c'est très mal préparé du côté russe ou français, je ne sais pas. Quand je vais dans les lycées ou les facs en France, ou en Europe, enfin, le prof, 3 mois avant, dit qui je suis, fait lire au moins un livre ou un chapitre, et je réponds aux questions des gens. Mais là, ils ne savaient absolument pas qui on était, évidemment. Donc, quel dialogue ça peut avoir ? C'est langue de bois, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Donc, ça n'a aucun intérêt, mais on était très libres. Donc, moi, je séchais les réunions. Il y avait quelques-uns. On allait se balader, on prenait un taxi, on allait voir un musée, on allait voir, etc.
Les Russes, quelle image ont-ils de la littérature française aujourd'hui ?
Ils ne connaissent pas.
Vous dites que la culture littéraire russe s'arrête à Alexandre Dumas, enfin non, à Zola
attendez,
même.
À Moscou et à Saint-Pétersbourg, ils connaissent, mais plus on s'éloigne, si vous voulez, ils sont beaucoup plus proches du Japon, ils doivent connaître mieux la littérature extrême orientale, parce que Vladivostok, c'est vraiment en face du Japon, la Corée du Nord, c'est un autre univers. Non, ils connaissent très peu. Pendant l'époque communiste, comme on sait, ils ne connaissaient rien, que les auteurs communistes, quatrième ordre, mais officiels. Donc maintenant, ils rattrapent, ils traduisent, même des gens comme Sartre n'étaient pas traduits, ils connaissent très peu.
Le succès du Maître d'Armes en Russie a été tel qu'à l'époque, on reproduisait des scènes du livre sur des mouchoirs, alors que le livre avait été interdit par le tsar, c'est ce qu'on apprend en vous lisant.
Oui, mais ça, c'est un roman de Dumas que les Français ne connaissent pas.
Oui.
Et c'est l'histoire d'une déportation, là, justement, en Sibérie.
En plus, comme on est déjà dans le transsibérien et sur ce chemin des
oui,
goulags,
oui.
cette
oui.
histoire douloureuse, oui. l'histoire du Maître d'Armes écrit par Dumas, qui
oui,
en plus fait
bon.
Après le voyage,
oui.
après avoir écrit, il part 3 mois là-bas. C'est un moment fort de ce récit de voyage.
Oui, oui.
C'est l'histoire des décembristes qui,
oui, bah,
qui reste
extraordinaire, les décembristes, c'est une chose...
Qui reste une révolte.
Bah, une révolte contre le tsar en 1825, qui a mal tourné. On a envoyé tous les chefs, enfin tous les meneurs en Sibérie, les grands princes russes, et qui sont restés 30 ans en exil, dans des conditions incroyables. Enfin.
Vous réhabilitez aussi Maxime Gorki.
Ah
comme
bah oui.
Daniel Salav, parce que vous allez
c'est un immense
vous visiter.
Écrivain. L'idée
vous visitez la ville où il
est déjà inouïe, enfin je veux dire, parce qu'on l'accuse même les Russes, l'accusent
de,
d'avoir
côtés.
Été stalinien. Or c'est tout à fait à la fin de sa vie que Staline l'a récupéré, Et comme Gorki commençait à ruer dans les brancards, Staline l'a fait assassiner. Mmh. On est presque sûr, l'a fait empoisonner. Mmh. Mais toute son œuvre est écrite avant la Révolution. Ça n'a rien à voir ni avec Lénine ni avec Staline. D'ailleurs, il a critiqué Lénine tout de suite après la Révolution. Et on l'a envoyé en exil.
Il a été en exil en Italie.
Mais c'est un très grand écrivain. Mes amis russes disent que c'est un grand styliste. Et c'est un des rares écrivains vraiment prolétariens, parce que c'était un fils du très pauvre. À 10 ans, il travaillait. Mmh. Il était comme une magasin. Il ramassait des planches. Enfin, et c'est une œuvre admirable. Et c'est rare, vous savez, qu'il y ait des écrivains qui ne soient pas ni bourgeois, ni nobles, qui soient sortis autodidactes. Mmh. C'est un très bel écrivain.
Comment vous l'avez découvert? Vous l'avez découvert enfant, j'allais dire, depuis toujours?
Un des premiers textes écrits, c'est une préface à la mer. Il y a, je ne peux pas dire combien d'années.
Oui.
C'était le club du livre, et une préface. Parce que déjà, il savait que je m'intéressais à la Russie.
Oui.
Non, mais ça, c'est un des classiques. Il a été victime de cet amalgame avec Staline, où il s'est laissé piéger à la fin de sa vie. Parce que lui, il avait adhéré à la Révolution, évidemment, en tant que fils du peuple. Il avait vu la misère où était la Russie du temps des tsars, et comment le peuple était traité, la disparité entre les grandes familles très riches et puis le peuple qui vivait dans la boue. Et après, il a déchanté, mais c'est un très, très grand écrivain.
Au cours de ce voyage, vous avez des doutes, si on ne s'est pas trompé de modèle, je parle de modèle économique et politique, quand vous voyez comment les Russes vivent, et malgré l'héritage du communisme...
Le drame de tout ça, si vous voulez, c'est
que vous avez des doutes.
Le communisme était abominable, le régime. La tyrannie soviétique est abominable, mais ce qu'on leur a proposé en échange... Le modèle capitaliste n'est guère mieux, je veux dire, il y a une oppression par l'argent, on le sait d'ailleurs, tout ce qui se passe même en France, les banques, tout ça. Le modèle occidental capitaliste est affreux, et il faudra bien faire une autre révolution un autre jour, mais alors qu'il soit mieux faite, je veux dire, parce qu'elle a été dévoyée, la révolution russe. Mais à l'origine, c'était beau, c'était renverser l'injustice, la misère, tout ça, puis ça a été capté, comme on sait, tout ça. Mais le modèle capitaliste, le seul qu'on propose, moi, je suis très très choqué, je veux dire. Je raconte comme en Place Rouge, en face du mausolée de Lénine, maintenant, c'est des boutiques de grand luxe. Vous savez, Dolce Gabbana, Prada, Gucci, tout ça, des choses inaccessibles aux Russes, très chères. C'est très choquant, je veux dire, en face du Kremlin, moi, ça me révolte.
Et vous écrivez, nous nous sommes trompés de modèle, et j'ai envie de leur avouer.
Oui.
Même aux gens que vous rencontrez là-bas en Russie.
Oui, c'est... il y a eu un malheur communiste, mais il y a aussi un malheur capitaliste. Derman Asanlav est absolument de mon avis.
Oui, tout à fait.
Nous nous rencontrons là-dessus.
Et l'un comme l'autre, vous pointez aussi la résistance des Russes à ce modèle, quand même.
Oui, mais enfin, en Sibérie, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est surtout Moscou qui est contaminé, vraiment.
Vous avez l'impression qu'un monde disparaît quand vous traversez comme ça ces paysages de cette Russie orientale?
Ah non, la Sibérie, ça n'a pas... Enfin, c'est la première fois que j'y allais, mais je n'ai pas l'impression que ça ait bougé, vous savez. C'est... Mmh. Enfin, il y a des très belles villes, vraiment. On voit qu'il y a une classe nouvelle, assez aisée. Il y a des beaux magasins. C'est très européen. La Sibérie, c'est l'Europe. Hein. À part la Bouriatie, où ils ont le type asiatique... Ce sont des descendants de colons russes qui ont colonisé à la fin du 19e. C'était des terres vierges. Et donc, ils ont tous le type russe. C'est des grands types avec des yeux clairs. C'est l'Europe.
Est-ce que, dans ce livre aussi, vous lancez une hypothèse historique? Vous êtes historien aussi dans ce livre, comme dans beaucoup de vos livres, hein, dans votre façon de faire de l'histoire. À propos du despotisme oriental, vous vous interrogez et vous vous demandez d'où peut venir cette soumission des Russes.
Ah oui, le sens du sacrifice. C'est pas la soumission, c'est le sacrifice. C'est un peuple, j'ai l'impression,
c'est une hypothèse.
Mais les deux premiers fondateurs de la Russie, c'était deux frères, Gleb et Boris. C'était au Moyen-Âge, ça. Et qu'il y avait un troisième frère, et il y avait une guerre civile en perspective, et ils se sont fait tuer, ils sont allés au-devant de la mort, volontairement. On les a canonisés, d'ailleurs, Saint Gleb et Saint Boris, qu'on voit dans toutes les icônes. Puis après, vous avez une longue histoire de Pierre le Grand fait tuer son propre fils, Tchaïkovski accepte de mourir, et même on peut interpréter le communisme comme un grand sacrifice pour un avenir hypothétique. C'est l'idée que il faut que les meilleurs sacrifices pour faire avancer les choses. Ce n'est pas une idée rationnelle pour nous.
Mmh.
Nous voulons que les choses arrivent par le progrès, par la, etc. Là-bas, non, il faut sacrifier pour aller plus loin. C'est christique comme idée. Hein. C'est le Christ qui sacrifie pour racheter l'humanité.
C'est propre à la culture russe.
Bah, à mon sens, oui, je ne vois pas...
Et à la religion orthodoxe aussi.
Mais la Russie, à ce que je connaisse, par tous les exemples historiques, musicaux, dans Dostoïevski, vous avez ça, dans Tolstoï aussi... Vous avez par exemple la nouvelle qui s'appelle « La tempête de neige » de Tolstoï. Mmh. C'est un maître et son cocher qui partent. Une tempête de neige les envahit.
Dans la forêt,
seule façon,
ils passent
c'est
la
de
nuit.
Coucher dans le traîneau. Ils ne peuvent plus bouger. Traîneau bâché. Mais on croit que ce sera le cocher qui va se coucher sur son maître pour protéger. C'est le contraire. C'est le maître qui se met dessous et il se couche sur le cocher. Et c'est le maître qui va mourir. Là aussi, vous voyez des sacrifices. Mmh. C'est très beau. Ça, c'est vraiment une idée russe, je pense.
Ça, vous le racontez aussi dans Tolstoï. Il y a aussi une réflexion sur le temps qui est toujours le même.
Oui, c'est très curieux parce que vous savez, il y a 7 fuseaux horaires. Oui. Quand il est midi à Moscou, mmh. il est 7h du soir à Vladivostok. Mmh. Mais dans les gares, l'horloge marque toujours l'heure de Moscou. Je me disais, pourquoi ? Je pense que c'est pour nier le temps et l'espace en même temps, pour ressaisir l'unité du pays, parce que c'est tellement grand. Donc on est toujours à l'heure fictive, qui est celle de Moscou.
Et puis il y a des rencontres tout à fait inconnues, anonymes. Par exemple, vous racontez l'histoire de ce cycliste parti à l'assaut de la Sibérie.
Ah oui, ben ça, c'est
de façon 130, complètement...
Oui. Il a fait le tour à vélo à la Sibérie, ça a pris 3 ans. Ça, c'est des fous russes.
Alors, un sens du sacrifice, un sens de la démesure, mais avec énergie, quoi.
Oui, oui,
et avec idéal.
Oui, mais toute la culture russe. Regardez les grands films d'Eisenstein. Il y a cette démesure, cette folie, pour rien, ce sens du gratuit.
Alors, quand vous êtes arrivé à Kazan, justement, vous parliez d'Eisenstein, parmi toutes ces villes où vous vous êtes arrêté, est-ce qu'il y en a une dont vous pourriez nous parler particulièrement?
C'est tout intéressant, tu sais. Nijni-Novgorod, c'était l'ancienne ville de la foire, que Jules Verne décrit de Michel Strogoff. Kazan, c'est une ville tatare, musulmane, où les deux religions orthodoxes et musulmanes cohabitent tout à fait pacifiquement, c'est très beau. Mais Ekaterinbourg, c'est passionnant, c'est la ville du constructivisme, et puis après il y a la Sibérie. Enfin, non, et chacune est très différente, parce qu'elles sont séparées par 1000 ou 2000 kilomètres, hein, c'est pas comme ici. Donc ce sont des régions, des cultures même différentes, je veux dire, et tout est passionnant.
Alors, quand vous avez dédicacé votre livre à Daniel Zalnar, en bourriade complicité, vous êtes arrivé une anecdote à tous les deux.
Oui, parce que nous étions à Oulan-Oudé, qui est donc la capitale de la Bouriatie, qui est une république, alors, je ne sais pas si elle est bouddhiste, enfin... Et enfin, on a été emmenés chez des vieux croyants orthodoxes, et là, pour montrer ce que c'était qu'un mariage traditionnel, il y avait des femmes, là, en costume, et puis nous, Daniel et moi, on était assis... Le plus près d'elle, c'était après un repas, ils nous ont fait venir sur l'estrade et on a servi de cobaye, en quelque sorte. Donc, elles nous ont fait mimer le mariage. Voilà, c'était... Mais ce n'était pas du tout folklorique, c'était très simple, très abatique. Et comme j'aime beaucoup Daniel, et ça s'est très bien passé.
Dans ce groupe d'écrivains ou d'intellectuels, vous avez tous partagé cette vision de la
choisi,
Russie.
À mon avis. Vous savez, c'est des bureaux à Paris qui ont désigné les écrivains. Il y en avait qui ont été désignés parce que je pense qu'on savait qu'ils connaissaient, qu'ils s'intéressaient à la Russie. Comme Daniel Zalnar et moi. D'autres s'y sont intéressés, et d'autres pas du tout. Et c'est pour eux, c'est des vacances, ils auraient pu être aussi bien à Honolulu ou à, je sais pas, au Canada. C'est dommage, c'était mal choisi. Mais ça, vous savez, c'est des bureaux, les copains, je sais pas, enfin, voilà.
Vous avez dit tout à l'heure que vous reviendriez, que vous referiez volontiers ce voyage.
Ah, j'aimerais bien, oui.
Autrement, en dehors de la lecture de Transsibérien, auquel je convie tous nos auditeurs, vous pensez qu'il faudrait faire une action culturelle avec la Russie en particulier, ou à l'encontre?
Même entre eux, c'est tellement loin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme action? Là, au Salon du Livre, il y aura des Russes, là. On ne se connaît pas. En France, on ne connaît rien non plus de la littérature russe. On s'est arrêté à Pasternak, à Solzhenitsyn. Il y a plein d'écrivains. Oui, Makine, qui est français, écrivain français, originaire de Russie. On ne connaît rien. Et... Non. Moi, ce qu'il faut faire, c'est que les gens aillent voir, comme nous.
Fassent ce voyage.
Qu'ils voient ce que c'est que la Russie, l'immense puissance qu'il y a intellectuelle, enfin, la richesse de ce pays. C'est formidable. Mais il faut y aller, c'est beaucoup mieux que de faire des actions. Vous savez, les actions seraient faites par le gouvernement, donc c'est nul toujours avec des fonctionnaires, c'est pas ça qui est intéressant. Il faut que des gens aillent faire le voyage. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, comment on fait ? J'ai envie d'y aller. »
Vous pensez que culturellement, l'Europe pourrait justement se rassembler ?
Parce que là, elle est mal partie. Quand vous voyez qu'en Belgique, ils se haïssent entre flamands et francophones, qu'à Barcelone, si vous parlez castillan, on ne vous répond même pas, alors je ne vois pas très bien...
Est-ce que justement, vous avez senti comme ça des tensions communautaires ou culturelles en
Russie ? Non, mais ça, on n'a pas eu le temps, ça, on ne peut pas juger. On est passé trop vite, mais je vous dis, à Kazan, ce qui est quand même un exemple de bi-religion, ben, ça se passe très bien. Dans le Kremlin, il y a des églises orthodoxes, il y a une énorme mosquée qu'a offert le roi d'Arabie Saoudite, et tout ça cohabite très bien.
Est-ce que ce n'est pas aussi l'héritage du communisme pendant longtemps qui a annihilé toute revendication religieuse ? Et donc aujourd'hui,
la religion renaît, la religion n'est jamais morte. Vous savez, le communisme, C'est un petit épisode dans l'histoire russe, 70 ans, vous avez des milliers d'années.
Oui, mais des milliers de morts aussi, et du
mais
coup
oui,
là...
Mais c'est pas nouveau, reprenez la guerre de 14, ça a été atroce, enfin, ils sont entrés en 15, ça, c'est épouvantable. Prenez Nicolas Ier, vous savez, c'était pas mieux que Staline, c'était un tyran épouvantable, qui a empêché Pouchkine de voyager, qui a envoyé en Sibérie, justement
les transsibériens.
Un des premiers tsars s'appelait Ivan le Terrible, quand
et
même.
Une colonne vertébrale au XVIe
siècle.
Histoire.
Les Russes ont toujours été dans la tyrannie. Alors maintenant, on tape uniquement sur les communistes, mais c'est une tradition de tyrannie. Donc il faudra beaucoup de temps pour qu'ils apprennent la démocratie, au sens où l'entendons. Il faut plusieurs générations. On ne peut pas brusquement passer de milliers d'années de tyrannie à un régime démocratique.
Pour vous, ça prendra du temps et...
Mais forcément, mais même en France, ça a pris du temps, je veux dire. Regardez, on a eu la révolution de 89, ensuite on a eu Napoléon, qui était le contraire, ensuite on a eu une restauration assez terrible quand même, la restauration de Charles X, et puis après il y a eu le Second Empire, c'est un siècle après la révolution qu'il y a eu la Troisième République. Un siècle en France, qui est un pays beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de problèmes. Donc la Russie, il faudra 3-4 générations.
Alors ce transsibérien qui traverse toute la Russie d'ouest en est, elle vous a paru, cette partie-là de la Russie, très éloignée de Saint-Pétersbourg, de toutes ces...
Ben oui, vous savez,
ça n'a plus rien à voir.
Quand vous êtes à 6000 km...
Ça n'a rien à voir.
Si, ça a à voir. C'est la même langue, c'est la même religion, c'est le même type de maison. Ça a été fait par des Russes, donc ça a à voir. Mais c'est l'immensité, on n'a pas idée ici. Vous en êtes 10 000 km, c'est le quart du globe. Et encore, nous, le train longe la frontière sud, qui est habitable encore. C'est-à-dire, on longe la Chine, la Mongolie, mais au nord de chez nous, il y avait des millions de kilomètres carrés, alors inhabitables, qui sont gelés toute l'année. Mais on le sentait, cette présence énorme.
Ce vide.
C'est ça, c'est ce sentiment de, oui, d'immensité qu'on n'a pas en Europe de l'Ouest. On ne peut pas, parce que tout est borné par...
Est-ce que c'est une expérience similaire à celle du désert? Qu'est-ce qui serait différent?
Le désert est plus habité, je dirais. Moi, je connais un peu le Sahara.
C'est l'impression.
Quand vous arrêtez au milieu du Sahara, il y a tout de suite des gens qui sortent, je ne sais pas d'où. Certaines parties au sud qui sont vraiment inhabitées. Mais là, d'abord, c'est beaucoup plus vaste. C'est sans commune mesure, vous voyez, comme immensité. Et moi, j'aime beaucoup le désert, ce que je connais. Enfin, j'aime beaucoup les déserts, mais j'ai jamais l'impression de me perdre, de me déposséder de moi comme ça, dans une immensité. C'est une expérience très forte. On n'est plus le même.
On va rester sur cette belle note. Merci, monsieur.
Merci à vous.